Vous écoutez
RMC. RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h02, c'est reparti pour la deuxième heure de Tim Dugas avec Jean-Louis Tour. Toujours là, mon Jean-Louis?
Bien sûr.
Et nous accueillons du beau monde. Franck Leboeuf pour commencer. Bonsoir Franck.
Salut Christophe, comment tu vas?
Salut mon poulet, ça va très très bien. Merci d'être là dans Tim Dugas pour cette deuxième heure. Nous accueillons également Daniel Riolo. Bonsoir Daniel.
Salut Christophe, salut tout le monde.
Salut Daniel, bienvenue. Et Julien Cazard, bonsoir Julien.
Bonsoir, excusez-moi, je finis un petit gin tonic là, petit Hendrix millésimé. Je vous le conseille, avec quelques baies rouges. À cette heure-ci, c'est parfait. Avec modération, évidemment.
Évidemment, Julien, bien sûr.
Alors, dans l'heure qui vient, on va revenir en détail sur la carrière de Roberto Baggio, donc l'un des joueurs italiens les plus marquants de l'histoire.
C'est Verratti.
Très bien.
Ça commence fort.
On va parler de Baggio en détail. On va s'interroger sur ses rendez-vous manqués avec la sélection, le maudit en Coupe du Monde, sur son parcours en club également. On verra dans quelle catégorie faut-il le ranger. Avec donc vous tous, évidemment, qui êtes là, et notre invité Benoît Coué, qui a été partenaire de Baggio à l'Inter. Salut Benoît.
Bonsoir Benoît.
Salut.
Bienvenue. Merci
Salut
d'être
Benoît.
Là. Merci Benoît.
Tu vas pouvoir nous éclairer un peu sur le partenaire que tu as eu. Et puis ensuite, on retracera vraiment sa carrière en détail. Toi, ce n'est pas forcément sa meilleure période quand il va à l'Inter avec toi. C'est 98-2000.
Ouais, exact. Roberto Baggio vient avec le grand joueur qu'on connaît, qui a surtout à la Juve a pu exprimer, où il gagne quelque chose d'important, ou à la Coupe du Monde, ça devient vraiment un top joueur mondial, un des plus forts au monde. Et puis, quand il arrive à l'Inter de Milan, c'est un joueur qui est un peu en rachat, parce qu'il arrive du Milan AC, où ça s'est pas très bien passé, où il a eu beaucoup de problèmes avec Capello, et il arrive à l'Inter de Milan pour proposer
la porte. Il n'est pas passé par Bologne?
Oui,
il passe par Bologne. Justement, il a un creux, il passe par Bologne.
Ouais, il a eu un moment où il se rachète un petit peu, et on va dire que dans les clubs où il y avait moins de pression, ou peut-être moins de grands joueurs, et ben il a pu exprimer totalement parce que tout était fait pour lui. Donc là-dessus, maintenant, comme coéquipier, moi, je l'ai pendant 2 ans, je vous dis simplement l'anecdote, elle est très simple. Au tennis ballon, j'ai joué pendant 2 ans, j'en ai pas perdu une.
Ah oui, avec lui comme partenaire.
Bah oui, avec lui comme partenaire, donc c'était facile. C'est un joueur qui techniquement était vraiment extraordinaire, capable de tout faire. Est-ce que dans le jeu, capable de marquer des buts incroyables, et puis d'éliminer n'importe qui à n'importe quand. Donc, je pense que là-dessus, il fait partie des grands grands joueurs de cette planète.
Au niveau du caractère, de l'état d'esprit, il était comment en dehors du joueur?
Ben écoute, ça a toujours été un garçon qui a essayé de se mettre à disposition. Je pense que ce qui a pénalisé sa carrière, c'est ses problèmes au genou, parce que c'est un garçon qui n'arrivait pas à s'entraîner régulièrement. Même chez nous, souvent, il sautait les entraînements, il avait énormément de problèmes au niveau des genoux, et puis plus de cartilage, enfin bon, des gros problèmes là-dessus, et là-dessus, ça a commencé les grands clubs, les grands joueurs qui sont avec toi maintenant, ils peuvent te le dire, même si tu es un grand joueur mais que tu t'entraînes pas, s'il y en a d'autres qui sont forts, ils vont jouer quand même. Et là-dessus, c'était compliqué pour lui dans les grands clubs. Donc je pense que on pouvait, dans la gestion, dans les clubs moyens ou dans les clubs où il a été à Bologne, à Brescia, où il a pu s'exprimer totalement, où tout le jeu était fait sur lui, où on pouvait lui permettre justement de sauter les entraînements, parce que lui, on savait qu'il allait faire la différence. Donc tout le monde était d'accord là-dessus, et ça l'aidait. Par contre, quand il était justement dans des top équipes où il y avait des grands joueurs, et là, si tu t'entraînes pas, quand tu as une gestion à faire de la part des entraîneurs, c'est plus compliqué. Donc je pense que c'est surtout ça qu'il a pénalisé. Mais le joueur, c'est un joueur qui aurait dû c'est un joueur énorme, c'est gigantesque ce que Roberto.
Benoît, le ratio il est quand même plutôt bon. On voit même à Milan Milan AC il fait 2 saisons, il a 87 matchs pour 49 buts, c'est quand même pas mal, non? C'est ça, ouais. C'est
non
ça,
non, mais il a mais il a de gros problèmes de gestion avec Capello, parce que bon, il s'entraîne pas énormément, donc ça c'est sa difficulté. Mais c'est un joueur Je le rappelle, de par son contenu technique, de par ses capacités réalisatives, où c'est un joueur que devant le but, et il a un nombre de buts incroyable. Et puis surtout, si on regarde ses matchs, eh ben, c'est pas 10 occasions par match et un but. Hein. C'est une occasion, un but. Donc là, il fait partie des joueurs qui décidaient la victoire de leur équipe.
Alors on va refaire sa carrière aussi en détail. Alors évidemment, Daniel, tu interviens en spécialiste du football italien que tu es sur Roberto Baggio, qui donc explose vraiment en Serie A.
Tu me donnes juste le feu vert et puis c'est parti.
Idriss Orangis, quel rapport avec l'Italie?
Oui, mais Riolo.
Donc oui, pardon. Je suis con.
Donc la Fiorentina, c'est là où vraiment il explose. Et j'ai vu qu'il avait son premier match, son premier but, c'est un coup franc contre le Naples de Maradona, qui déjà marque les esprits.
Bah, moi, alors sur Baggio, là, va falloir un moment m'interrompre. Parce que là, on est dans mon top 3.
Tout joueur confondu.
Joueur préféré de toutes les époques de la Terre. C'est pour moi un joueur absolument extraordinaire.
Même quand il marque le but à l'aller au retour contre le PSG.
Ça, je voulais en parler.
C'est justement très, très difficile ce moment-là.
Ouais.
Parce qu'il bat le PSG tout seul. Parce que la Juve de cette époque est une belle équipe, mais vraiment pas insurmontable pour le PSG. Ensuite, en finale, il écrabouille Dortmund, pareil, en aller-retour, parce qu'à l'époque, l'UEFA se joue en aller-retour, même sur la finale. Mm-hmm. Et pareil, il est extraordinaire. Je pense que c'est sa meilleure période à ce moment-là. Effectivement, Jean-Louis, donc, comme je te disais, on est dans mon top 3. Donc, moi, sur ce gars-là, je peux démarrer des heures, parce qu'en plus, il a une dimension héros-romantique. Parce que c'est fait partie de ces joueurs qui sont à la fois extraordinaires et un peu maudits.
Ouais.
Évidemment, le côté maudit, c'est le penalty de 94 de la finale, alors que c'est lui qui emmène une équipe italienne moyenne jusqu'en finale.
Oui, on va y revenir en détail sur son parcours en sélection, mais il perd pas un match à élimination directe.
Voilà.
En Coupe du Monde. À chaque fois, il se fait sortir au péno.
Et pour moi, justement, il va au-delà. J'aime les joueurs qui ont une double facette, qui sont à la fois extraordinaires, mais qui ont des blessures, qui sont des mecs un peu isolés, parce que c'est pas un mec qui parlait beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai essayé plein de fois pour différents projets de le contacter. C'est très compliqué. Une sorte de boîte de com qui gère ses intérêts. Enfin, il vient peu sur les plateaux en Italie. Mmh. Il parle pas beaucoup. Il donne pas son avis sur le foot.
Il a parlé beaucoup trop tard à son coiffeur.
Il a eu des rapports très conflictuels avec beaucoup de grands entraîneurs italiens. Ouais. Et les entraîneurs en italien sont très importants. Les mistes. Et quand un joueur de sa dimension a en plus des problèmes de relation avec les entraîneurs, enfin bref, il a eu une vie, mais c'est un mec qui est adoré parce qu'il fait partie de ces joueurs qui a pu faire Juve, Milan, Inter sans être détesté nulle part.
C'est vrai qu'il a fait
parce que
trois,
c'est un mec qui surpasse la dimension rivalité entre clubs. Fiorentina-Juve, ça a été très difficile quand il a quitté la Fio pour la Juve.
C'était chaud. Alors,
évidemment, on va s'y arrêter. On va en parler parce qu'il s'est passé plein de choses avant dans cette espèce de grande introduction.
Bah, la grande révélation aux yeux du grand public, en tout cas en France, c'est le Auxerre Fiorentina de 90, quelques mois avant la Coupe du Monde, où il sera, quand il arrive à la Coupe du Monde avec l'Italie, il n'est pas le leader de l'équipe au départ. Hein,
quelle Coupe du Monde
90, c'est un jeune joueur qui effectivement va être brillantissime, notamment dans le match contre la République tchèque, où il met ce but complètement dingue. Mais il n'est pas super connu. On sait juste que c'est la petite merveille.
Et Auxerre, c'est l'UEFA 90, où la Fiorentina va en finale contre la Juve.
Exactement. Et oui, bon, les Français découvrent Roberto Baggio à cette occasion-là dans ce match aller-retour contre Auxerre, quoi. Après, sa carrière va démarrer en Italie. Évidemment, il est connu déjà avant parce qu'il est à la Fiorentina et que c'est un joueur clé de cette équipe.
Et je parle à la fin de cette Coupe de l'UEFA 90 où donc la Fiorentina perd contre la Juve et c'est après l'élimination qu'il apprend qu'il est transféré à la Juve.
Ouais, ça fait quand même ce qu'on peut appeler un pataquès parce que les deux clubs sont rivaux déjà. Enfin, de toute façon, la Juve a que des ennemis.
Moi, j'ai vu que les gens descendaient dans la rue pour se plaindre du transfert
violent
à Florence à l'époque.
Oui, ça avait été violent. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que les mecs de la Fiorentina lui en tiennent une rigueur dingue. Ouais. À l'époque, oui, mais après, c'est passé, quoi.
On va insister sur le passage à la Juve où il va juste après.
En fait, Baggio.
Mais Duga, toi, c'était ton partenaire à Milan quand tu y es. T'as quoi comme souvenir, comme relation avec lui?
Très bonne, très bonne. C'est un garçon très discret, hein, mais très bonne. Et puis, c'était un joueur.
Moi, j'adore ce joueur. C'était un joueur fantastique. Pour moi, il a été surcoté. Alors après, je sais pas s'il a été
sous-côté,
pardon. Je sais pas s'il a été sous-côté.
Bah, il est quand même ballon d'or. Hein, il a
ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que sous-côté, il a quand même gagné des choses. Il est quand même ballon d'or. Donc, son talent est reconnu. Mais après, c'est vrai que peut-être que comme c'était un garçon un petit peu introverti, j'imagine qu'il a pas eu la reconnaissance qu'il aurait mérité d'avoir parce que je suis en train de, en même temps, de regarder son palmarès. Alors, il a fait sa carrière qui a commencé en 82 jusqu'en 2004. Partout où il est passé, il a marqué des buts.
Non, mais Christophe,
la
reconnaissance que tu dis, tu as raison, mais c'est d'abord c'était son caractère. Il était charismatique sur le terrain, mais comme il avait cette timidité, cette réserve, donc il n'était pas un mec, tu vois, qui était très expansif. Mais surtout, vraiment, ce gars-là a joué l'essentiel de sa carrière blessé. C'est ça aussi quand je disais il a un côté maudit, c'est que ce mec après la Juve n'a jamais été complètement. Même à Milan, c'est un
mec parce qu'il a une grave blessure à 18 ans.
Voilà,
et il y a l'histoire d'une jambe jouée contre l'autre.
Voilà. Ce gars-là est en fait une sorte d'handicapé qui était sur le terrain.
Ouais.
C'est la légende, en fait, qui renforce la légende.
C'est le plus fort que t'aies vu à Milan, ouais.
À Milan, sincèrement, il y avait Ouéa, il y avait Savicevic, il y avait Boban, il y avait Marco Simone. Sincèrement, c'est le plus fort que j'ai vu.
Et c'est dingue parce que
quand il touchait le ballon, 1m74, il était tout petit, mais il jouait toujours vers l'avant, il avait cette qualité de passe.
Fabuleux, le contrôle, le premier contrôle.
J'ai trouvé ce garçon incroyable. Sincèrement, tout au long de la carrière, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Il était génial.
Ce qui me surprend, parce que à chaque fois que j'ai entendu parler de Baggio par des joueurs qui ont joué en Italie, des joueurs français qui ont joué en Italie, ils m'ont toujours dit c'était le meilleur.
Ouais.
Et c'est dingue parce que l'image qu'il a, moi, j'ai jamais joué en Italie, j'ai pas voulu y aller, et je suis allé en Angleterre où c'était pas à la mode. Baggio était tellement discret que Baggio, on n'en parlait jamais.
Oui.
Et donc, il n'avait pas cette image en dehors de l'Italie qu'il méritait parce que ça a été un très, très grand joueur. Et moi, je l'ai vu jouer le quart de finale en 98, mais j'ai vu des finales. On parle de l'aller-retour contre le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai, mais il n'a pas eu les distinctions, l'aura médiatique qu'il aurait mérité, certainement. Mondial.
Juste sur, est-ce que c'était le meilleur Benoît Coé, vous qui avez été partenaire de Ronaldo aussi, est-ce que c'était le meilleur Baggio quand même?
C'est pas le même poste.
Non, on va dire que l'histoire sont nos deux joueurs complètement différents. Puis bon, après, pas mettre sur des paramètres pour moi qui n'ont rien à voir. Ronaldo a des capacités physiques qui n'ont rien à voir du tout avec celles de Baggio. Par contre, sur l'intelligence, je dis l'intelligence de se mettre toujours à disposition pour l'équipe. Pour finir et toujours être là, pour pouvoir justement donner quelque chose à une équipe. Roberto était extraordinaire. Et on revient justement, quand je vous entends parler, justement, à fait qu'il est passé aussi, il soit passé aussi dans des clubs inférieurs, hein, où vraiment il a pu démontrer à lui tout seul qu'il avait les capacités de pouvoir justement aider ses équipes, de les mettre dans des classements où peut-être, si tu regardes les équipes là aujourd'hui, que ce soit Bologne ou Brescia, qui ont été les deux clubs où il a vraiment exprimé son potentiel, où il était vraiment le phare de ces équipes là, n'ont jamais réalisé des championnats de ce niveau là. Donc moi je dis, au-delà de parler, d'affronter et de mettre des paramètres à rapport à des joueurs, je crois que surtout ces deux joueurs là c'était deux joueurs qui étaient extraordinaires parce qu'ils étaient capables de faire la différence à chaque moment du match.
Et Benoît, la capacité. Benoît, par rapport à Cyril Pouget, PSG Liverpool, qui était vraiment très, très gros sur ce match-là.
Était un petit peu différent.
Un peu différent, c'est vrai.
J'ai aimé le c'est vrai.
Vous savez que c'est pour lui qu'a été inventée l'expression « on a fait demi ».
Pour Baggio.
Pas pour Cyril Pouget, c'est Platini.
Oui, parce que le poste, c'est ça, c'est vraiment deuxième attaquant.
Parce que je crois que l'expression doit venir au moment où il arrive à la Juve. Platini est parti depuis 3 ans. La Juve n'a pas réellement trouvé de remplaçant, tellement Platini a marqué les esprits là-bas. Quand Baggio arrive, vous savez, on aime bien faire c'est le successeur, c'est le gars qui... Et Baggio arrive un peu avec cette étiquette-là. Mais comme on se dit que ça va être un 10, mais en fait, c'est pas vraiment un 10 parce qu'il est plutôt deuxième attaquant. Et je crois que, sans me tromper, ça doit être Platini qui dit.
C'est Platini qui dit.
C'est pas un 9, c'est pas un 10, c'est un 9,5.
Platini était un 9,5 aussi.
Aussi, mais bizarrement, lui, on me disait que c'était le 10.
Ouais. Alors qu'il avait un profil.
Voilà. C'est lui qui invente l'expression pour Baggio et il dit que c'est un 9,5.
Parce que Platini, il courait pas, alors que Baggio, il courait. Je pense que c'est ça qui fait, qui donne l'impression que. Non, mais c'est vrai. Et moi, alors, juste par rapport à Baggio, juste pour moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est que pour un Italien, déjà être Ballon d'Or, c'est con. Mais les Italiens, c'était fort collectivement. Mais ils avaient rarement des Ballons d'Or, ou alors en année de Coupe du Monde, ou tu vois ce que je veux dire.
Comme Canavaro,
lui, ouais, voilà. Ou alors Rossi, lui,
Rossi,
avoir un Ballon
d'Or.
Voilà, il l'a en 93. Alors tu me diras, il gagne même pas la Ligue des Champions. Tu me diras, personne la gagne cette année. Et du coup,
il gagne l'UEFA, qui est à l'époque une compétition. Qui est aussi importante que la C1, parce que les équipes.
Attends, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Hein. Mieux que d'avoir battu Glenn Torran, Glasgow Rangers, c'est Bruges.
Attends, t'es sympa quand même. C'est le parcours de l'OM, oui.
Ah, ouais, enfin, je dis ça, ça aurait pu être une équipe.
Non, mais il ne faut pas oublier historiquement que les Coupes d'Europe n'étaient pas aussi séparées à cette époque. Quand tu gagnais la C3 dans ces années-là, ça.
C'était deuxième du classement, peut-être.
Du gars.
Voilà, en plus.
C'était plus dur, presque.
Qui a été le plus fort pour toi, Daniel? Del Piero ou Baggio?
Et Pirlo,
je vais dire problème.
Baggio,
et Pirlo,
Baggio sans problème. Pirlo, ah, Pirlo, c'est encore autre chose. C'est un joueur fabuleux.
Ouais. Non, mais là, est-ce que Totti est une légende du foot?
C'est un vieux truc qui me revient.
Oh, ça c'est encore autre chose. Ça.
Bon, très bien.
Autre chose. C'est un mec qui a mené sa carrière comme il avait envie de l'amener.
Totti.
Et c'est déjà assez.
Oui. Non mais je chante parce que c'est un vieux débat de Tim Duga.
Non. Et Payet.
Un génie. Un Duga en mieux, c'est-à-dire qu'il a mené sa carrière comme il avait envie de l'amener, avec parfois pas forcément une volonté d'aller au bout de ce qu'il aurait pu faire.
Totti, c'est un Duga en mieux. Je la retiens, celle-là.
Bah, Duga était un très beau joueur de foot qui, à mon avis, n'est pas allé au bout de ce qu'il aurait pu faire avec ses qualités qui étaient au début fantastiques, parce que n'oublions pas qu'au début, même les gens pensaient qu'il était supérieur à Zidane, ce qui techniquement n'était pas complètement faux au début, en tout cas. Sauf que Duga n'a pas voulu peut-être se
faire mal.
Bah, peut-être, mais lui-même l'a dit. Donc, si je le dis, c'est que je sais qu'il l'a dit. Et Totti était quelque part un peu aussi comme ça.
Très bien.
Voilà. Duga, je voulais savoir ce que c'est Duga, Duga ou bien.
Moi, ça me gêne Duga pas chez les joueurs. Bien. L'important, c'est qu'on le sache. L'important, c'est qu'on connaisse les qualités de chacun. Pour moi, connaître l'histoire du football, c'est aussi savoir qu'un mec qui n'a pas gagné 1000 titres valait un mec qui en a gagné 1000. Parce que c'était un joueur fantastique aussi.
Daniel, Julien,
parce qu'il marque les gens aussi, parce qu'il marquait les gens.
Julien a une bonne question pour une fois. Qu'est-ce que c'est un Duga en moins bien?
Parce qu'en mieux, on a compris, mais en moins bien.
Totti, c'est un.
Bon, allez,
je vais réfléchir.
Réfléchis et trouve-nous quelqu'un.
Bon, Duga, tu veux rien ajouter là sur ce que tu as dit?
Non,
c'est bon,
là,
c'était magnifique.
Ça,
hein. Voilà, on se régale. Hein. Donc, les années à la Juve, c'est peut-être dans les trois grands clubs italiens qui fait les années les plus abouties.
Ah, oui,
on l'a
oui.
dit avec la victoire en UEFA.
Il sort de la Coupe du Monde.
Il est champion en 95 avec la Juve. Mais il n'empêche quand même, est-ce qu'il y a autour de Baggio cette image de. Il réussit. Comme nous l'a dit Benoît Coé, dans les plus petits clubs, à Brescia, à Bologne, et non, les échecs à l'Inter clubs. Et à Milan ont marqué peut-être.
Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est déjà l'Inter. Il faut, pour moi, presque pas en parler parce qu'il tient à peine. Il est vraiment. Ben Benoît l'a dit. Il est vachement blessé. Il a du mal.
Il a pas échoué à Milan. Il a
pas
échoué à
Milan. Matchs, c'est pas vraiment un échec parce qu'il est,
buts, 49
buts. Il est quand même champion une année avec Milan. Non, je vois pas ça comme un échec là. Après, la concurrence à ce moment-là, elle est un petit peu dure à Milan. Et c'est quand même un joueur. Il fallait quand même que l'équipe tourne autour de lui. Alors, si en plus il n'était pas au top physiquement, pour que l'équipe bosse pour lui, ça ajoutait à la difficulté. Alors qu'à la Juve, il est le leader de l'équipe. Il est en forme physiquement. Il n'est pas diminué comme il a pu l'être les années d'avant. Et l'équipe tourne pour lui. Il peut porter l'équipe. C'est d'ailleurs ce qu'il a. Un peu, tu sais, ça l'a handicapé avec certains entraîneurs, ça. Les entraîneurs qui ne veulent pas qu'un joueur soit le leader total. Par exemple, Sacchi détestait ce genre de joueur-là, qu'il fallait mettre en avant parce qu'il bossait plus sur le collectif. Capello, c'était encore autre chose. C'est si tu bosses pas à 100%, si t'es un peu diminué, bah, c'est un autre mec qui va jouer parce qu'il voulait, il y avait une vraie rigueur, une vraie discipline. Donc, si à chaque fois il rentrait pas là-dedans parce que physiquement il était pas au top et puis qu'il avait quand même un côté individualiste, un peu, je suis le soliste de l'équipe. C'est pas facile quand même. C'est pas simple d'en tirer le meilleur, quoi.
Oui. C'est
mais
sûr.
Tu vérifies parce que t'as pas l'air d'accord sur les nombres de matchs qu'il joue avec le nombre de buts qu'il met à Milan.
J'essaie de vérifier vos buts à Milan pour tout vous dire.
On est à 49 buts pour 87 matchs. Si c'est ce ratio-là en deux ans, je trouve que c'est pas mal du tout quand même.
Pour une saison ratée, deux saisons ratées.
Oui, mais juste là, par exemple, attendons de vérifier.
Là, par exemple, je sais pas, en dehors de la concurrence qui était rude, je sais pas pourquoi l'Euro 96, là je n'ai plus en tête, 94 il joue, 98 il revient en équipe d'Italie, mais pas comme titulaire. Et l'Euro 96, c'est encore Sacchi l'entraîneur. Les relations entre les deux étaient absolument calamiteuses. Même si en 94, il lui sauve quand même la mise en allant jusqu'en finale. Mais l'Euro 96, où est Baggio? Déjà là, Alors qu'à l'époque, il y a concurrence parce que c'est Zola qui est un peu, on va dire, le joueur clé de l'équipe. Donc tu vois, il a une relation qui est quand même à chaque fois compliquée, aussi bien dans les clubs que dans les sélections.
En 98, voilà, il le fait quand même.
Milan l'a remplacé. C'est 10 buts les deux saisons. Deux fois 10 buts. Donc voilà, ce que vous avez vu, c'est un peu gonflé. À Milan,
un peu gonflé. Oui, parce que 10 buts en championnat peut-être. Il y a peut-être des coupes, des trucs, équipe nationale. Mais en 98, il marque deux buts, je crois que le Chili et l'Autriche. Et contre nous,
il démarre pas titulaire.
Il démarre pas titulaire, mais il joue.
Le propos, c'est qu'on va faire la sélection dans un instant, okay. Parce que il y a les trois coupes
parce
du monde.
Parce qu'il est crucial dans notre victoire.
Ah bah oui, parce qu'il tire à côté.
Il tire juste à côté.
On y reviendra à ce quart de finale.
Poil.
Donc
un poil à côté.
Benoît, arrêtez de rappeler ça à Daniel. Vous êtes vraiment salaud.
Mais Daniel est d'abord français. Voyons.
Merci beaucoup. Je sais pas si t'as un truc à rajouter sur Baggio, Benoît.
Non, il y a rien à rajouter.
Sur Pouget.
Pouget, on verra après.
Benoît, toi qui connais bien l'Italie, tu confirmes cette relation qu'il avait toujours un petit peu particulière avec certains entraîneurs qui sont les entraîneurs, c'est des grosses personnalités en Italie et pas simple de gérer un tel joueur et la façon qu'il avait d'être sur le terrain.
Exactement. Alors le mystère en Italie. Donc à partir de là, c'est un gros point, une grosse influence. Roberto Baggio est un des joueurs, ou pratiquement le joueur le plus aimé italien des journalistes.
C'est vrai.
Donc c'est un joueur qui a une presse énorme. Et c'est clair que à ce moment-là, quand tu vas dans ce sens-là, si un joueur ne joue pas et qu'il est aimé autant, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des articles plus favorables. Et là-dessus, tu vas contre souvent les intérêts d'un entraîneur et ce qu'il peut voir, que ce soit à l'entraînement ou dans les matchs. Donc là, ça devient un conflit. Et après, c'est clair que aussi la parenthèse de Milan, je crois que surtout ce que les gens attendaient surtout de Roberto Baggio, surtout, c'était qu'il devienne vraiment un titulaire dans un grand club. À la Juve, il avait pris les choses en main. Donc quand il va au Milan AC, ça devient un joker et ça ne va pas devenir un joker, c'est de devenir un titulaire, mais c'est compliqué parce qu'il y a énormément de grands joueurs. Et là-dessus, c'est la même chose chez nous. Donc à partir de là,
je m'en souviens, j'étais là. Ouais.
C'est surtout là que
il n'a pas tenu la concurrence. T'as raison.
Ouais, exact.
Il a eu peur.
Là, c'est dur.
Il a eu peur.
Et donc c'est surtout là-dessus où il y a des critiques. Mais je crois que c'est certainement lié. Ou c'est sûr, certainement lié à son, comme on disait, à son parcours, mais surtout sa vision de la vie.
Ouais.
Où c'est une personne qui est très réservée.
À Milan, dans les oppositions, il était souvent dans l'équipe de Dugas, qui est jamais rassurant. Tu vois, c'est que tu sens que tu vas pas jouer le week-end.
Merci Benoît Coué. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
Merci Benoît.
En tout cas, là pour l'instant, au moment où on se parle, de tout ce que j'entends, Dugas, ça me rappelle quand tu nous dis, avec les très grands, il y a jamais de problème de comportement. C'est toujours des mecs bien ou des, tu vois, il y a pas de coup fourré. Et là, j'ai l'impression que c'est illustré par Baggio, par tout ce qu'on dit.
Lui, Maldini, Baresi,
Zola.
Il y a des problèmes qu'avec les faux grands joueurs. Bah oui, c'est eux qui t'emmènent.
On a parlé la semaine dernière de Ronaldo. On a dit, même la réflexion de Daniel sur le fait que le mec soit aimé alors qu'il ait fait Barcelone, Real, Inter et Milan, à l'AC Milan, et il n'y avait pas de problème parce que c'était des mecs qui étaient adorés
par Cantona, façon, c'est un faux grand joueur. Du coup, je vous suis. Hein.
Cantona,
du coup, c'est un peu un faux grand joueur. Du coup, bah, je vous suis, moi.
Parce qu'il y a eu des embrouilles autour de lui, avec les sélectionneurs. Ouais. Mais pas avec les partenaires, forcément.
Jamais avec les partenaires, je pense qu'il a toujours été aimé.
Il y en a eu
aimé,
un peu, mais bon.
Un peu.
Oui, non, le truc, c'est que vous disiez, vous, c'est plus avec les
partenaires.
Les partenaires.
Ouais, c'est ça.
Non, parce que Baggio, pour le coup, avec les entraîneurs, c'est.
Oui, c'est un peu chaud.
C'est tendu. 94 avec Sacchi, c'est une relation complètement folle. Ouais. Quand il le sort le
Après,
premier match.
Sacchi, il était particulier aussi, Daniel.
C'est vrai qu'il était particulier, mais tu savais qu'il avait ces principes-là, tu savais que le collectif et qu'il aimait pas les mecs qui se démarquaient un petit peu. Quand il le sort dans le match où l'Italie est réduite à 10, dans le match de poule qui doit être celui contre la Norvège, où il dit à Baggio, c'est toi qui sors, au moment où il y a un carton rouge dans l'équipe et que Baggio regarde le banc et qui fait avec la tête, t'es complètement fou, tu me sors moi.
Ouais.
Là, ça va devenir super tendu entre les deux parce que publiquement, il le fait. Il fait le signe avec la tête, genre t'es fou. Faire ça à Sacchi, qui en plus avait un ego, qui en plus est très fatigué à ce moment-là et ne voulait quasiment plus entraîner parce qu'il était un peu à bout. Bon, derrière, néanmoins, Baggio a emmené l'équipe.
Alors,
en
voilà,
finale,
hein. On va le faire dans un instant, la sélection et Baggio. Juste avant du gars, quand même, Berlusconi t'a demandé de couper tes cheveux. Est-ce qu'il l'a fait aussi à Baggio à l'époque, non, avec sa queue de rat, là?
Non, et c'était moche. Que c'était dégueulasse, de coupe de cheveux, là.
J'étais prisonnier de cette image-là, non?
Non, mais c'est parce que c'était son trip bouddhiste, ça.
Il y a un trip bouddhiste.
Ah oui, j'allais lancer Franck, il a
bouddhiste. Bah ouais, moi j'ai essayé, mais.
Non, mais t'es un peu bouddhiste aussi, non?
Ouais, mais t'es pas obligé d'avoir une queue de cheval.
Son trip bouddhiste à Baggio. Ouais. En Italie, c'était vraiment marquant. L'Italie est un pays profondément catholique. Un mec qui se dit d'une autre religion, en Italie, quand t'es italien, ça existe quasiment pas. Enfin, c'est très très rare. Le mec, il arrive, il dit je suis bouddhiste. Ben, les Italiens disaient, mais c'est qui ce martien, quoi?
Ah, oui, bien sûr.
Avait ce biais. Donc, tu vois, ça a ajouté un petit peu à sa légende, à son aura. Il est différent, il n'est pas comme.
Dalai Lama et Mathieu Ricard, par exemple, qui est le représentant français de tous les bouddhistes, on va dire, ils ont plus ma coupe de cheveux que celle de Baggio, quand même.
Ah oui, hein, oui, bien sûr, hein, bien sûr. C'est vrai que quand toi, tu nous as dit que tu étais bouddhiste, Francky, ça nous a moins surpris que Baggio en Italie, je pense. Mais bon.
Parce que je suis plus perché.
Moi, je me souviens plus de la rencontre bouddhiste.
Mais pour de vrai,
je me souviens plus de la rencontre.
Je ne savais pas.
Oui, Julien.
Et moi, je me souviens plus de la rencontre de Baggio avec Bernard Lama qu'avec le Dalai Lama.
C'est qui m'a plus marqué. Effectivement.
Et tu sais qu'il y en a un autre à qui on a demandé de couper sa queue de cheval, c'est Makelele. Il a jamais voulu.
Très bien, merci, ouais. Julien. Les défaites de Baggio en Coupe du Monde avec la sélection italienne. Plein de choses encore à raconter. À tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h33, Tim Dugas continue avec Julien Cazard, Daniel Riolo, Franck Leboeuf et Jean-Louis Tour. Nous continuons à parler de Roberto Baggio.
Et il y aura le blind test également, 32-16, pour vous inscrire. Alors, la carrière de Baggio, on va revenir dans un instant sur les Coupes du Monde de Baggio, où il a été parfois étincelant et parfois maudit. Juste avant, Daniel, quand même, il y a une histoire de pénalty qui ne veut pas tirer. C'est avec la Juve, ça?
Ouais, quand la première année où il quitte la Fiorentina, où il va là-bas. En gros, pour montrer qu'il est toujours attaché à la Fiorentina ou qu'on l'a un peu forcé dans ce transfert-là, et il veut pas tirer le penalty.
D'accord.
Et à la fin du match, il ramasse par terre une écharpe de la Fiorentina, pour dire je suis un peu toujours avec vous, et il va sur le banc saluer un ancien coéquipier à lui.
Elle exagère, la Fiorentina. Là,
donc il en fait des tonnes à l'occasion de ce match-là. Les supporters de la Juve, alors ceux de la Fiorentina se disent bon, tu nous as trahis, mais pas vraiment parce que tu nous aimes encore. Et ceux de la Juve, celui-là, il vient à peine d'arriver. En plus, les supporters de la Juve pensent toujours, et c'est normal, que leur club est plus fort que tout et surtout que les joueurs. Donc il dit ok, lui c'est peut-être la future star, mais il commence un peu, il nous les brise un peu à peine arrivé celui-là quand même.
Bon, ça s'est arrangé après.
Oui, ça s'est arrangé après. Ouais.
Alors l'équipe nationale, donc première Coupe du Monde, on en a déjà dit un mot, mais c'est 90 pour lui où il n'est pas titulaire. Tu nous disais Daniel
à la maison.
90.
Ouais, la Coupe du Monde. Ouais.
Mais quand même, il a du temps de jeu.
Oui, bah l'image de cette Coupe du Monde là, c'est évidemment ce but contre. À l'époque, on disait encore Tchécoslovaquie, on est en 90.
Oui.
La République Tchèque.
Oui, oui.
Non, Tchécoslovaquie.
Tchécoslovaquie. Ouais. Et d'ailleurs, la Juve voudra, parce qu'en fait, à l'image de Schillaci, il va s'imposer comme titulaire dans la fin de Coupe du Monde.
C'est ça.
Et en fait, la Juve veut reconstituer le duo en prenant les deux. Ah. Baggio et Schillaci.
Mais il est quand même éclipsé par Toto Schillaci. C'est quand même un phénomène de Coupe du Monde.
Schillaci, dans cette Coupe du Monde, c'est un peu, c'est l'expression les nuits magiques. Ouais. Schillaci est resté en Italie parce que le mec, il démarque en remplaçant et puis à chaque fois qu'il joue, il marque et les commentateurs sont, c'est encore une fois Schillaci qui nous sauve. Ouais, la légende tournait autour de lui plus que Baggio.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est lui qui ressort un peu la vedette.
Sa Coupe du Monde, c'est 94. Mais où là, il est le plus étincelant, surtout sur les matchs.
Ça démarre super mal. Oui, mais voilà, tellement mal.
On va dire comme d'hab avec l'Italie,
mais ça démarre mal pour l'équipe, mais pour lui. Pour lui, parce qu'il est pas bon dans les matchs, parce que les supporters disent qu'il est cramé, qu'il n'arrive pas à rien.
La poule, c'est une défaite, une victoire, un nul.
Bah en fait, à l'époque, on pouvait passer en étant troisième. Voilà. Donc, ils perdent le premier match contre l'Irlande. Ils gagnent le deuxième contre la Norvège en juin 10, parce que donc, Paliuka se fait sortir. Donc, ils doivent changer le gardien, parce qu'il prend un carton rouge. Et Saki décide de le sortir lui. Donc, lui, il s'énerve. Donc, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ils gagnent 1-0 malgré tout. L'Italie, c'est Dino Baggio qui n'était pas du tout son frère qui met un but. Et le dernier match, c'est contre le Mexique. Match nul, match catastrophique où lui encore est minable. Et après, l'aventure, elle démarre. Et en fait, puisqu'on aime bien en Italie, on aime bien les histoires qui se répètent. On dit que c'est un peu comme Paolo Rossi qui avait été mauvais dans la phase de poule et qui après, quand on commençait la deuxième phase, a mis les buts. Et lui, il a commencé contre le Nigeria, où l'Italie est largement dominée par le Nigeria, menée 1-0, et où c'est lui qui, dans la prolongation, va mettre le but vainqueur.
C'est dingue parce qu'on
oublie. Il provoque un péno, non? Il provoque pas un péno ou un truc comme ça?
Si, bah, c'est lui qui devient.
Il a un coup de génie. Il a un coup de génie parce que la petite pichenette qu'il fait sur la main du mec, c'est presque malin, quoi.
Pour
que
le quoi?
T'as l'impression qu'il crée un péno, je crois. Il fait une espèce de pichenette.
Non, en fait, c'est en 98 contre le Chili, où dans la phase de poule, il est sur le côté et il vise la main d'un défenseur chilien et ça fait péno.
Mais en 94, il y a cette demi-finale contre la Bulgarie où il met un doublé.
Ouais, où c'est lui qui
est le premier but magnifique.
Ouais, c'est lui contre l'Espagne, il marque en quart dans un match très serré contre l'Espagne de Javier Clemente, qui n'était pas l'Espagne d'aujourd'hui au niveau du style. Et contre le Nigeria, l'Italie est dominée physiquement, techniquement. C'est une belle équipe, le Nigeria, en 94. C'est eux qui mènent 1-0. Il y a égalisation à la fin. Et au début de la prolongation, l'Italie marque. Et après, même si c'était l'Italie de Sacchi qui détestait le Catenaccio plus que tout, puisqu'il s'est, il s'est créé en opposition à ça. L'Italie, dès qu'elle marquait, même en 94, elle retrouvait les vieux réflexes.
Ouais, mais on a une mémoire, quand même très sélective et réductrice de ce qui se passe pour ces certains joueurs. Où on dit 94, Roberto Baggio, et là, tu vois, quand tu fais un petit peu l'étalage et le détail de ce qui a été.
Pour toi, c'est que l'image de la finale.
Non, mais parce que regarde, on parle souvent.
Parce que dans une Coupe du Monde, voilà. Regarde, même la vôtre de Coupe du Monde. On dit toujours, c'est la Coupe du Monde de Zidane.
C'est ce que j'allais dire.
Il est bon
à partir des quart de finale contre l'Italie.
Et encore, le match contre l'Italie, c'est un match très fermé.
Oui, mais il est bon.
Oui, il est bon.
Pour 98, c'est la Coupe du Monde de Laurent Blanc. C'est ce que tu
nous dis. Voilà,
ça, oui.
Ouais, voilà. Marcel de Sailly.
Non, mais c'est le collectif France qui est fort. Mais il n'y a pas une individualité qui est réellement au-dessus. Il marque les deux buts en finale qui font sa légende. Mais Zidane est meilleur plus tard.
C'est exactement ce que je dis. C'est qu'on en fait ce qu'on en veut.
Mais dans les Coupes du Monde, les légendes se créent comme ça, bien sûr.
Mais Baggio, quand même, l'image qui reste, c'est le pénalty raté en finale.
Moi, c'est plutôt Franco Baresi. Est-ce qu'il n'y a pas Franco Baresi qui manque aussi?
Le dernier,
c'est Franco Baresi qui tire solo.
C'est Baggio. Il y a Massaro qui rate. Massaro en rate un, Baresi en rate un et Baggio.
Ah, Baresi rate. Baresi rate aussi.
Oui,
moi, c'est
pas le dernier.
Tu vois, c'est un truc de défenseur.
Ouais. En plus, Baresi qui revient de façon miraculeuse parce qu'il se blesse dans un match de poule du genou. Je sais pas comment il se fait opérer pour revenir si vite, quoi.
Et sa finale est pas dingue à Baggio contre le Brésil. Mais il est blessé aussi, non? Il se blesse pas en demi.
De toute façon, il est tout le temps un peu blessé. Donc, t'as toujours l'impression qu'il se traîne un peu sur le terrain parce qu'il joue. En plus, sa finale.
Après, on parle de Baggio, pas de Dugas.
Italie-Brésil, la finale est pas terrible. La finale, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il se passe rien. Ça va au péno.
C'est une des pires depuis Allemagne-Argentine 90, je pense.
Le résumé dure 2 minutes parce qu'effectivement, il y a les deux occasions.
Il y a juste cette frappe où Paliuka relâche le ballon, là, qui va un peu sur le poteau.
Ouais, c'est vrai.
Heureusement que c'était commenté par Cantona
et
Didier Roustan, qui nous ont un peu fait marrer. Parce que sinon, c'était chiant.
C'est vrai.
C'était une belle finale. L'Italie perd donc au péno en finale. On a l'image de Baggio traumatisé. Et donc, il y a cette Coupe du Monde 98 où il est toujours titulaire?
C'est Vieri Del Piero.
Il revient.
Le duo. En plus,
il marque quand même. En 98,
but. Chili, Autriche.
Voilà. En plus, l'entraîneur est Cesare Maldini.
Ouais.
Et pour lui, qui était quand même un entraîneur héritier Catenaccio, Maldini, tu mets pas deux créateurs dans la même équipe.
Oui.
Donc il fallait 4 derrière, voire 5. Et c'était soit Del Piero, parce qu'en plus en Italie, il y a la tradition de ce qu'on appelle le duel entre les 10. Il date de 70 où tu peux pas faire jouer deux talentueux en même temps. Donc c'est une connerie qui datait de l'époque Catenaccio. Voilà. Donc Del Piero, Baggio, c'était toujours lequel va jouer, qui va jouer, machin. Et en fait, c'est pas qu'il est pas titulaire parce qu'il joue les matchs de poule. Et après contre la Norvège, qui est le match de 8e de finale, je crois que Baggio ne joue pas, c'est Del Piero et Vieri. Et contre la France, c'est Del Piero et Vieri qui démarre.
Il rentre. Et donc sur ce fameux match, c'est en prolongation, il va frôler le poteau pendant les prolongations, et s'il marque, on est au but en or.
C'est une demi-volée, non? C'est une demi-volée qui le partait.
Une sorte de demi-volée.
Tendu, mais un peu bizarre. Il part juste à côté et là, c'est but en or, c'était terminé. Si ça rentre, ça fait poteau rentre.
Exactement. Ça serait fini.
On serait pas là, sans doute.
Je pense que tu serais. Bah, toi, non, tu n'aurais pas joué la finale.
Non, mais je pense que personne serait là.
Lui, comme du gars, comme il ne serait pas les héros que c'est devenu.
Imagine Bernard Diomède. Vous ne pouvez pas dire ça. Ça se trouve, derrière, tu gagnes l'Euro 2000 quand même, tu gagnes la Coupe du Monde 2002, on ne peut pas savoir.
Non, tu peux pas savoir,
tu,
mais enfin.
Tu sais que t'es pas champion du monde à ce moment-là, mais voilà, tu sais pas comment les carrières évoluent.
Attends, Jean-Louis, excuse-moi, mais je pense que pour le coup, il y avait beaucoup.
Bien sûr, c'est son métier.
Il y avait beaucoup de mecs qui étaient quand même en sursis. Si jamais ça perd en quart de finale contre l'Italie, je pense qu'il y en a beaucoup qui dégagent. Jacquet,
déjà,
il
est Jacquet, rentre dans sa région, on le revoit plus jamais.
Blanc et toute la génération, ça dégage, il dégage.
Ah non, mais si vous avez vu le monde parallèle, pas de soucis, bravo.
Mais oui, mon cher ami. Mais oui, mon cher ami.
Pour les mecs qui avaient déjà connu la Bulgarie, donc Deschamps, Blanc, Manu, hein, tu gagnes 98, tu perds ce match-là sur la fin de Nadjo, c'est terminé.
Yuri, mais comment
c'est terminé, on te revoit plus. Hein.
Ouais. Zidane, Julien, imagine si t'avais arrêté de boire, toi, Julien. Imagine ce que t'aurais fait.
J'aurais fait une autre carrière. Peut-être pas ici. Sur voilà. Une grande radio, genre Sud Radio ou 8 FM.
Surtout, ça va arrêter de dire des conneries.
Bon, et donc.
S'il te plaît, 8 FM.
L'aventure avec la sélection, alors ça, peut-être Daniel, tu vas pouvoir m'éclairer. Ça va jusqu'à 2004 quand même.
Et même quand il est à Brescia, il est rappelé en équipe nationale juste avant la fin de sa carrière, je crois.
Ah, c'est une sélection à la fin pour l'honorer.
Bon, peut-être. Franchement, Coupe du Monde 2002, il y est pas.
Ouais.
En plus, même à Brescia, s'il cartonne,
c'est une sélection beaucoup, à la fin. À Brescia,
encore une fois, franchement, regardez les matchs, il court à peine sur le terrain. Les mecs courent pour lui, ils se traînent avec cette jambe. On a l'impression qu'il a une jambe en bois. Et d'ailleurs, il avait fait une finale de Coupe Intertoto contre le PSG avec Brescia.
Ah oui, ça me parle.
L'Inter Toto, ça doit être en 2001,
et
là, je crois.
Et un titre,
que le PSG gagne.
Ouais. Un titre.
Avec le PSG où il y a Aloïso, c'est Louis l'entraîneur d'ailleurs.
Et donc ton Juve PSG là, donc c'est quart de finale, non, demi-finale du FA.
De 93. Lenny gagne. Bah oui, c'était un dur moment parce que lui, je l'adore plus que tout, mais évidemment sur ce match-là, je suis pas pour la Juve évidemment.
Bien sûr, t'es pour le club français. Comme
évidemment, tout à fait. Et c'est cruel de voir le joueur que tu préfères, c'est lui qui t'élimine quoi.
Et oui.
Mais Daniel,
le coup franc qu'il met.
Il met trois buts, c'est ça?
Il met trois buts.
Non,
ouais.
il en met deux. Hein.
Non, il en met un à l'aller et deux au retour, non?
C'est pas Viali qui
au retour, c'est David,
pied.
C'est David Platt qui marque.
David Platt, remise de la tête de Platt et Viali du bout du pied, je crois.
Tu crois que enfin, en tout cas, c'est lui qui tire le coup franc.
Coup franc de Baggio.
Et c'est lui qui a l'impression qu'il dépose le coup franc qui est là comme ça. Mais c'est l'aller surtout. C'est l'aller. Paris a 1000 occasions. Paris doit gagner le match aller. Et lui, il arrive à la fin de match. Il te met une super frappe. Et puis après, il y a le coup franc là sur cette énorme bourdasse de Comboiré qui fait une espèce de faute totalement inutile à entrer de la surface. Et le coup franc, bim, lucarne.
Très bien.
En plus, coup franc à la Baggio, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui la pousse, qui la bloque et qui marque.
Il avait cette fameuse statistique.
C'est vrai. Décalé un peu. Ouais.
Tu sais que Jérôme Rotten réclame les passes décisives quand il décale juste sur coup franc. Il nous l'a déjà fait. Non, mais vraiment.
C'est vrai.
Ah ouais, ouais, bien sûr. Mais
arrête, c'est pas vrai.
Ah ouais, il l'a fait à Morientes.
Mais tu te souviens, ce genre de coup franc, ça n'existe plus. Genre, je pousse à 50 cm, le mec bloque et tire dessus.
C'est-à-dire que quand Jérôme arrêtait le ballon,
quand il le faisait tourner juste, t'es obligé de le faire tourner un peu le ballon quand même.
Non, c'est pas lui qui faisait tourner. Lui, le tireur la pousse et le mec bloque.
Ah non, pas sur le mec. Non,
mais si, parce que ça dépend.
Celui qui décale juste.
Mais celui qui décale, celui qui bloque
le passeur décisif.
C'est celui qui bloque. Et donc,
il y a pas tout le temps quelqu'un qui bloque.
C'est normal parce que franchement, il faut savoir bien bloquer parce que si t'as pas mis les bons coups,
tu
n'as pas bien le ballon. Et si ton corps est pas bien placé au moment où tu bloques, tu gênes.
Surtout si tu
le gênes. Si tu te pousses pas bien comme il faut, tu gênes. Tu vois. Hop, le mec.
Jérôme sait se retirer quand il faut.
Oui, merci Francky. On va en rester là avec Tonton Daniel qui nous a raconté une belle histoire.
J'attendais.
Daniel a peur de perdre au blind test, donc on le libère tout de suite.
Ah, merci les amis, à bientôt.
Et on se retrouve dans l'after ce soir. Dans un instant, le blind test, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC.
Qu'est-ce qu'il y a, Francky? Qu'est-ce que tu as hurlé à Daniel?
Je suis inquiet. Si Daniel part, on va faire comment les équipes? On n'est plus que trois.
Bah écoute, il y aura une équipe de deux de mecs qui ont joué en 98 ensemble et Julien qui est numéro 1 à la race du blind test. Celui qui a donné le plus de bonnes réponses, il sera donc tout seul.
Daniel se prépare parce que ce soir avec les Rocco Soldiers, ils ont un gros match.
Alors les Rocco Soldiers, je précise, c'est pas le surnom qu'on donne à Daniel avant d'intimité. C'est le nom de son équipe dans le quiz de l'After ce soir.
Dans la ligue fermée de l'After ce soir.
Ils jouent contre qui?
Contre la Celtic Army.
Ah les Bretons.
Voilà. Les Rennais et Nantais.
Très bien.
Ouais.
Ce sera ce soir donc.
Mais parce que les Bretons sont des Celtes, les Normands sont des Vikings.
Très bien,
sûrement.
Un petit peu.
Je fais confiance.
J'ai pas lu Astérix.
Non.
Alors, le nombre de buts, s'il vous plaît.
Pas mal.
Merci. De Roberto Baggio, toute compétition confondue sur toute la carrière. Un chiffre.
113.
277.
200. Oui. 80.
Ah ouais, non.
318.
Ah, ah mais ah oui, oui, d'accord.
Surtout qu'il a marqué plus de 200 national. Buts en championnat.
Bravo Francis, mais c'est pas la question.
Je suis con parce que 113, ça doit être ce qu'il a fait la Juve seulement. Donc,
ouais, puis surtout, vous avez tous les deux les téléphones
à la Juve. Ah non, moi j'ai, son, mais, j'ai ses stats sous les yeux.
Mais c'était pas le quiz. C'était pas le quiz. Là.
C'était pas le quiz, c'était une non, sorte de mise en bouche.
Ça commence toujours par une chanson déjà.
Exactement. Bravo vous Francis, qui a compris le principe du blind test. Ouais. Et c'est sympa de l'expliquer aux autres.
Bah, j'essaie, mais Julien.
Julien, il est bon quand même.
Il est bon quand même. Mais je sais pas, est-ce que c'est pas Antoine Varnier le meilleur?
Ah, Antoine est excellent. Ah, il pourrait venir d'ailleurs là.
Ah oui, il pourrait faire. Bah, viens. Ah,
il va venir faire le blind test.
Antoine, ne sois pas Jimmy. Viens,
attention, il est
Julien.
Très fort, hein, Antoine.
Mais déjà, le problème, c'est qu'il a déjà les réponses.
Je vais refaire les équipes différemment. Il va faire équipe avec Duga. Allez, c'est dans un instant. Donc,
il fait toujours équipe avec Duga.
Oui, bah, comme ça, il va vraiment faire équipe avec lui. Quelques messages sur Twitter. Je peux en livrer un ou deux quand même. On nous dit Baggio, c'est l'incompris du foot italien. Effectivement, on a abordé cet aspect tout à l'heure avec Daniel et ses divers rendez-vous manqué. Et on nous dit également, Vicente nous dit, c'était le plus grand. Il n'y a pas de débat. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, c'est parti. On continue, Tim Duga, bien évidemment. Il nous reste encore le blind test. On va se régaler, les amis.
Exactement. Donc deux équipes. Julien Cazard, Franck Leboeuf ensemble.
Ah.
Les humoristes.
Ah ouais.
Et Christophe Dugarry, aidé par Antoine Varnier, qui est avec. Bonsoir, salut Antoine. Alors,
salut champion. Antoine, est-ce que tu peux nous jurer sur la tête?
Oui.
Non, t'as combien d'enfants? T'en as qu'un?
J'en ai deux.
T'en as deux?
J'ai rien vu.
Franchement, que t'as rien vu?
J'ai rien vu.
Sur la tête des enfants.
Je prépare pas le blind test. J'ai tellement de travail en avant.
On peut dire à Antoine, tu peux dire les réponses directement sans le dire dans l'oreille.
Oui, voilà, c'est ça. Alors on y va, vous connaissez le principe, hein, une chanson, ça dégaine. Derrière une question foot.
Oh là,
je pense qu'Antoine va dégainer.
Lady Gaga.
Bien joué. Oui, Duga.
Ah, bravo.
Et là, personne ne se souffle. C'est génial.
Non.
Ouais, je me méfie quand même.
Ou du moins, pas de Paris. Très bien. 1-0 donc.
Est-ce qu'il y a ta femme juste à côté de toi, Christophe?
Non, je vois pas
des questions.
Non,
d'accord, okay. Lady Duga.
Poker Face, nom de la chanson. On cherche donc un joueur qui a eu des gros gains au poker.
Dorasso,
Neymar.
Non, aucun de ceux-là. Un joueur passé par Nice, Arles-Avignon, Monaco, Marseille et Bordeaux.
Madar.
Pas Madar, pas Loco. Trois sélections en bleu.
Jean-Yeti.
Champion de France en Ligue 2 avec Sochaux, vous êtes nuls. Finaliste de l'UEFA avec Marseille.
Sosé.
Non. Myriam. Qui a dit Myriam?
Mathias.
Oui, Mathias, bien joué. Mathias, bonsoir d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Ça part en vrille.
Mathias, tu es avec l'équipe de Julien et de Francky.
Ah, bah c'est
bien.
Il y a
Laurent également. Laurent, bonsoir.
Salut Laurent.
Tu es avec Francky et Duga. Voilà, oui, excusez-moi les gars, j'étais emporté par le fait qu'Antoine Varnier soit avec
nous. Il a gagné combien, Kamel Meriem?
Il a gagné 80 000 euros. Au poker.
Attends, mais Neymar, il a gagné 10 fois plus. Qu'est-ce que tu fais, toi?
Mais j'ai pas choisi de trouver Neymar.
Ah ouais, d'accord.
Pourquoi tu...
Ah ouais, j'adore le
truc. Pourquoi tu m'agresses,
mon pauvre? Ah oui, t'as le droit de demander qu'on trouve Meriem.
Je demande ce que je veux.
Bah oui.
Et oh, Julien, il veut donner une réponse et que ce soit la réponse que j'ai décidée.
Julien, détends-toi, on a égalisé. On a égalisé.
Tu fais le malin. Pas trop malin.
Tu me fais pas peur.
On va se taire l'alcoolique, là.
Ouais.
Allez, on y va, nouvelle chanson.
Ah, c'est Dr. Dre.
Eh oui, Antoine, il est là.
Ouais, mais ça, c'est les trucs de John, ça.
Bon,
John, c'est les années 90.
Oui, c'est John.
Ah, bah, truc de John. Moi, j'ai arrêté la musique à partir de 90.
Julien Dre, j'aurais trouvé.
Oui, j'ai arrêté le foot.
Dr. Dre, Still Dre. Qui était surnommé le docteur? Un joueur.
Doc River
Viali. Manu Petit.
Non.
Manu Petit.
Non.
Ah, Socrates.
Eh oui, Francky, Docteur Socrates.
Je l'avais en plus.
Ah ouais.
Manu Petit. Ça fait deux partout, c'est un match magnifique.
Éventuellement le gynéco. Éventuellement,
il y a clairement l'équipe musique Antoine et Duga et l'équipe foot Julien.
Bah,
Nouvelle chanson, oh, c'est pas facile.
Ah, pour Duga, c'est dur.
Ah, je sais ça. Tant.
On peut écouter sinon.
Comment?
Mort. Michael Mort.
Oui, Michael Mort. Bien joué, Antoine.
C'est Michael Mort, ça?
Moi, je connais Michael Moore. Pas Michael Moore.
Michael Moore, moi je connais que celui qui fait les.
Les docs. Effectivement. Ouais, ça fait 3-2 pour les musiciens du Gary Varnier.
Ouais.
Sorti en 2012, donnez-moi un des deux meilleurs buteurs cette année-là de D1. Il y en a deux.
2012
Non.
2012. Benzema encore?
Non,
déjà parti.
Un champion du monde? Non.
Un très aigué?
Non.
Un champion du monde quoi?
2018.
Chamac. Ah, Giroud.
Oui, Giroud, Antoine.
Ah oui, avec Montpellier.
Chamac, champion du monde 2018.
Ah bah tiens, Chamac, voilà un Duga en moins bien. Là, voilà, Chamac. Laurent Chabac, c'est un peu Adugarry en moins bien.
4-2. Les artistes, vous pouvez vous
faire. Il cherche un mec en moins bien que moi. Il est fou, ce type.
Allez, on y va.
Ah, c'est...
Mika.
Oui, bien joué, Julien est un artiste aussi. Il est capable de trouver des chansons musicales. Bravo. Enfin, des questions musicales. 4-3.
Mickaël Madard. C'était ça.
Landreau.
C'était ça. C'était Mickaël Madard, non?
Bah, j'allais juste demander à un joueur qui est prénommé Mika.
Mickaël Madard. Donc,
Landreau.
4-4, on revient.
Ils ont anticipé.
On est bon.
On va donc faire une dernière chanson.
Allez.
Nirvana,
oui, Nirvana,
ah,
bien sûr.
Bien joué.
C'était Laurent. Ouais, c'était ma
jeunesse. Bravo Laurent, ça fait 5-4. Dernière question foot, donc sortie en 91, qui est troisième de D1
Monaco,
cette année-là.
Auxerre,
Antoine.
Ah, bravo.
Antoine.
Là, c'est le décalage. Là, il mise sur le décalage.
Victoire donc de l'équipe Duga.
Bravo.
Portée par Antoine. Et on embrasse celle qui est à côté de Duga. Oui, Julien.
Lady Duga.
Je reviens en studio bientôt parce que c'est trop la carotte de toi.
Et c'est le jeu, malheureusement.
Et je vais te calmer un petit peu, toi. Parce que tu te racontes un peu.
Pourquoi on prend l'accent marseillais quand on a un petit
Parce que quand t'as vu d'être violent, c'est plus impressionnant que de dire je vais te taper.
T'as raison. Merci, Julien. Demain dans Team Duga. Merci, Francky. Duga, demain, 18h, retour de Team Duga. Laurent, on t'envoie bien sûr un t-shirt RMC pour avoir gagné ce blind test. Dans un instant, c'est par ici la sortie sur RMC. Ciao à tous.
RMC, 18h-20h, Team Duga.